Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 53 de ce vendredi 12 avril. Heureux de vous savoir parmi nous. On salue les gars de la presse qui sont avec nous. Guillaume Lefrançois qui est là. Salut Guillaume.
Salut JR.
Directement d'Ottawa, Simon Olivier Laurent. Salut Simon Olivier.
Oui, monsieur. Salut, Jérémy.
Écoute, je comprends qu'il y a un délai avec Ottawa. C'est pas grave. On comprend le principe. Des fois, c'est un peu long avant que ça arrive là-bas. Pour le 98.5 FM, Antoine Roussel qui est là. Salut Antoine.
Salut les gars.
Bon, aujourd'hui, messieurs, on va se parler de Salt Lake City qui deviendrait une destination probable pour les Coyotes de l'Arizona. On parle de 1,5 milliard, peut-être une petite transaction financière et tout ça en dollars américains, soit dit en passant. Ça fait beaucoup de pesos si vous faites la transition. Le ministre des Nordiques de Québec, ici, Éric Girard, dit qu'il aimerait voir le Canadien jouer à Québec en saison régulière. Ça, c'est de l'argent que t'as pas nécessairement. C'est des coûts que t'es supposé de pas avoir, que les Canadiens pourraient avoir. On va en parler, savoir ce que vous en pensez. On va se parler du sondage de la NHLPA, l'association des joueurs qui voit Sidney Crosby comme étant le joueur le plus complet, marchand le plus détesté. Je vais aller voir vos choix. Antoine Roussel, étais-tu dans les choix pour le plus détesté? Non, en ce moment.
T'es plus actif.
Non, t'es plus actif. C'est ça l'histoire. Mais première nouvelle qui vient de tomber pour ce balado. On apprend que Lane Hutson a signé son contrat d'entrée dans la Ligue nationale avec le Canadien de Montréal, lui qui a été éliminé du Frozen Four parce que Boston University a été défait 2-1 en prolongation face à Denver. Je fais un tour de table là-dessus. Les gars, on dit dans un premier temps avec Guillaume, Hutson devrait rejoindre l'équipe dimanche soir pour les deux derniers matchs, donc Détroit, un à Détroit lundi et un à Montréal contre Détroit mardi prochain. Comment tu vois la situation? On va l'utiliser pour les deux matchs selon toi?
J'ai l'impression que oui, rendu là, je vous dis pourquoi pas, c'est pour ça qu'on le fait venir. De toute façon, il faut qu'il joue un match pour brûler l'année de contrat. Et ensuite de ça, ben, je veux dire, bon, tant qu'à le faire, je veux une fois, pourquoi pas lui donner les deux matchs. Alors, ça va être un beau casse-tête. Là, évidemment, ça va signifier de sortir probablement un vétéran ou un Justin Barron de la formation. On verra rendu là, mais toujours est-il que oui, on s'attend à ce qu'il joue. Vite comme ça, on ne connaît pas encore l'horaire exact d'entraînement, mais ce qui semble logique, ce serait qu'il y aurait un entraînement matinal lundi matin à Détroit. Alors, ce serait essentiellement son seul contact avec l'équipe sur la patinoire avant de jouer. Puis là, ben, let's go dans la gueule du loup, dans le feu de l'action.
C'est pas Sean Farrell qui avait fait sensiblement la même chose?
Oui, exact.
Entraînement matinal puis match le soir?
C'est ça, sauf que Farrell, lui, était resté quand même pour deux semaines. Donc, tu sais, il y avait eu après ça des entraînements. Mais pour Hutson, ça va vraiment juste être deux matchs. Bing bang, merci, bonsoir. Alors, ça va aller vite. Ça va aller vite pour lui. Puis tout ça, en plus, contre Détroit qui se bat pour une place en série. Donc, ça, il va être mis à l'épreuve très rapidement.
Je vais demander dans quelques instants à Antoine comment il voit un défenseur de 5 et 10, 162 jouer dans la Ligue nationale d'hockey. Mais juste avant, avec Simon Olivier, je veux savoir, Lane Hutson arrive, j'ai l'impression qu'on le voit gros comme le monde. Est-ce qu'on doit prendre un pas de recul, dire regarde, le jeune va arriver, il faut qu'il s'adapte? Comment tu vois cette situation-là?
Ben, en fait, la réponse est dans la question. Bien joué. Je pense que oui. Effectivement, faut évidemment laisser du temps et prendre ça avec un petit grain de sel. On parlait de Sean Farrell tantôt. C'était exactement ça. Sean Farrell venait d'être dominant dans les circuits universitaires, sur le circuit universitaire, pardon. Et en fin de saison, on a vu que c'était un gars qui était pas du tout prêt pour la Ligue nationale. On l'a protégé. On l'a pas mis dans des affectations trop complexes, mais puis il a pas eu l'air complètement fou. Mais tu sais, c'était un gars qui était pas au niveau du tout, puis il y a eu un beau début de saison avec le Rocket avant de se blesser cette année, mais c'est un gars qui a besoin de millage en bas, et j'ai un peu l'impression que c'est ce qui arrive avec, c'est ce qui pourrait ou risque d'arriver avec Lane Hutson, parce que justement son sens de hockey, je pense qu'il est bien connu, mais son gabarit puis sa capacité à défendre contre des joueurs de la LNH, ça reste à prouver. Guillaume et moi, on en discutait aujourd'hui justement, contre Détroit, alors que Détroit en plus va jouer sa saison quand les attaquants de l'autre côté, puis sans égard au gabarit, mais quand les attaquants de l'autre côté vont s'appeler Alex DeBrincat, Patrick Kane, Dylan Larkin, Lucas Raymond, David Perron. La vie va être différente de jouer contre des gars d'université qui probablement seraient pas nécessairement les mêmes des bons joueurs dans la Ligue américaine. Fait que moi, Hudson, je pense que ça peut être juste une belle surprise. C'est réussi à bien s'en sortir cette semaine, mais il faut garder notre niveau d'attente assez bas.
OK. Choix de deuxième ronde du Canadien en 2022. Hudson, c'est 5 et 10, 162 livres, 15 buts, 34 passes en 38 matchs. C'est 49 points en 38 matchs cette saison.
Tu sais, avec Détroit, il y a un Michael Rasmussen à 6 pieds 6, 220 livres. C'est ce genre de confrontation là qui va être intéressante à voir pour Hudson, mais c'est ça, c'est là qu'on va savoir où il en est physiquement.
Antoine, comment tu vois ça, un jeune qui arrive comme ça de la NCAA, qui s'amène pour deux matchs, va me dire deux matchs qui veulent rien dire pour le Canadien, qui veulent dire beaucoup pour Détroit. Comment tu vois cette situation-là, Antoine?
Ben, je le vois d'une certaine manière, parce que je l'ai déjà vu avec les Canucks. Quand Quinn Hughes est arrivé, c'est sûr qu'il n'a pas eu nécessairement l'impact immédiat, mais il avait quand même connu des bons matchs avec nous, puis ça a laissé entrevoir de belles choses pour la suite des choses. Maintenant, c'est sûr que Quinn Hughes, il n'a pas été choisi au même rang, il y avait peut-être un petit peu plus je veux pas dire de talent, mais tu sais, il était mieux vu que Lane Hudson à ce moment-là, tu sais aussi. Donc, pour moi, je veux être patient dans cette évaluation-là. Je vais lui laisser le temps de se dégourdir. On a déjà vu des joueurs avec le Canadien comme Ryan Poehling scorer 3 buts, puis on s'était tous dit, ouais, ce gars-là, ça va être le prochain. Puis finalement, ben, ça avait été moins bon. Puis la preuve, il n'est plus avec le Canadien. Donc, il va falloir être patient. Mais c'est officiel que même dans son jeu offensif, il va avoir une adaptation. L'adaptation, la rapidité du jeu, chose que même des gars de quatrième ligne, même des bons joueurs dans le NCAA, c'est pas des gars de quatrième ligne dans la Ligue nationale qui vont arriver avec un échec avant. Puis on le dit, vous le disiez, tu sais, avec une équipe qui joue sa saison, ils vont avoir le couteau entre les dents. Puis je sais pas d'ailleurs si vous avez écouté le match hier soir qui opposait les Pingouins à Détroit. Pour moi, c'était de l'intensité, c'était le meilleur match de la soirée d'ailleurs. Donc c'était vraiment excitant, puis ça va être difficile pour lui. Donc il va avoir des bons tests, mais faut se garder une petite gêne pour l'évaluation hâtive, mais ça sera pas évident. Puis même si offensivement il est bon, ça va prendre peut-être plusieurs années avant que défensivement il devienne excellent. Quinn Hughes, il a vécu un petit peu la même chose. Il a été très bon offensivement rapidement, mais défensivement, ça suivait pas. Puis à un moment donné, ça, tout a cliqué. Son intensité sur les rondelles libres, son intelligence a pris le dessus. Puis là, c'est pourquoi il va probablement gagner le trophée du défenseur par excellence du circuit.
Mais Guillaume, il y en a un autre espoir du Canadien qui est avec cette formation-là de Boston University, c'est Luke Tuck.
Exact.
Qui était l'unique buteur, d'ailleurs, pour l'équipe du Boston University. Lui, ça va être un joueur différent, complètement différent, un attaquant fort gabarit, un gars qui peut amener du talent offensif, oui, mais plutôt de la rapidité, de l'intensité, de la rudesse.
Exact, en plein ça. D'ailleurs, il y a un an ou deux, je parlais avec un intervenant de hockey, puis il m'avait dit la comparaison pour lui, si ça va bien, ça serait Nick Ritchie. Nick Ritchie, okay. Ça a été justement, c'était ça. C'est un gros attaquant, mais qui a été pas mal un joueur de quatrième trio là, pendant sa carrière. Alors, tu sais, c'est la comparaison qu'on m'a déjà laissé tomber. Et effectivement, parce que tu sais, lui, même à l'université, n'a jamais été particulièrement dominant offensivement. Mais tu sais, on voit quand même, on le voyait dans le match hier, sa présence est évidente. 6 pieds 2, 215 livres. Donc, c'est sûr que dans un match au niveau universitaire contre des joueurs de 20 ans qui sont pas encore développés et matures physiquement, ben il ressort un peu plus, c'est normal. Mais ça reste qu'on voit sa carrure, on voit aussi on voit qu'il n'a pas peur de s'en servir. Donc, tu sais, je pense qu'il y a une belle transition à venir pour lui chez les rangs professionnels. Ça veut pas dire directement dans la Ligue nationale, là, mais tu sais, je pense qu'il y a de quoi à faire avec ce joueur-là. Juste voir lui, il finit cette année que ça se finit pour lui. Donc, lui, il a jusqu'au 15 août, dans le fond, pour s'entendre avec le Canadien. Alors, il pourrait aussi décider de... s'il regarde la situation et qu'il se dit, ben, je pense qu'il n'y a pas de place pour moi, je pense qu'il y a d'autres organisations où il y a plus de place que moi, ben, il peut simplement attendre jusqu'au 15 août. Et là, à ce moment-là, il devient libre pour toutes les équipes.
Il y a encore de la place pour les contrats, je pense. On est
oui,
à quoi? On est à 46?
46, si mon chiffre est bon.
Sur un total de 50.
De 50, exact.
Fait qu'on a encore de la place.
C'est ça, exact. C'est pas un problème. Il faudrait juste voir ce qui arrive en Europe aussi, parce qu'il y a un quotidien suédois qui dit qu'Oliver Kapanen, un autre espoir du Canadien qui joue en Europe, lui signerait un contrat avec le Canadien quand sa saison va terminer.
Donc, je disais qu'il reste 47 contrats avec la...
Mais il y a de la place.
Vas-y, Simon.
Si je peux rectifier, en fait, oui, à 46, mais Luktuk, probablement, en fait, pas probablement, assurément, s'il signe un contrat, même maintenant, son contrat deviendra entrer en vigueur l'année prochaine. Okay. C'est pas un gars à qui on ferait brûler une saison. Et là, présentement, il y en a seulement 36 pour l'an prochain. Mais ça veut dire beaucoup de gars des ligues mineures encore à signer. Beaucoup de joueurs du Rocket qui sont sans contrat pour l'an prochain. Mitchell Stephens, Yass Anderson, Philippe Maillet, etc., qui sont pas des joueurs glamour à Montréal, mais qui ont quand même un rôle dans l'organisation. Fait que faudra voir aussi, c'est ça, peut-être qu'il va faire ses calculs avec son agent, parce que là, l'alignement est déjà presque complet en avant chez le Canadien. Je sais pas c'est quoi les plans du Rocket, qui va avoir au moins le groupe de très jeunes va avoir déjà vieilli. Peut-être ça aurait du sens d'amener un gars comme Tuck, mais peut-être aussi qu'il va estimer qu'il y a plus de chances d'accéder à la Ligue nationale plus rapidement dans une autre organisation.
Juste ajouter à tout ça, un autre espoir du Canadien est là également. Lui, il rend grande finale de la NCAA. C'est le gardien de but Jacob Fowler.
Il y a deux autres espoirs, parce qu'il y en avait un avec Denver aussi, Sam Harris.
Ah ben voilà.
Qui est un attaquant, mais qu'on n'a pas vu, qu'on voit un peu moins, là, qui est pas premier trio ou rien. Donc oui, deux espoirs du Canadien qui seront en finale.
Écoute, le bonheur est au rendez-vous, mesdames, messieurs, en ce vendredi 12 avril. Simon-Olivier, tu es à Ottawa. Aujourd'hui, le Canadien s'est entraîné en préparation de ce duel face aux Sénateurs. Et disons-le, c'est jamais facile contre les Sénateurs d'Ottawa qui trouvent le moyen de brasser le Canadien, de marquer des buts. Kachuk connaît toujours de bons matchs contre le Canadien de Montréal. Qu'est-ce qu'on a dit de bon aujourd'hui à l'entraînement chez le Canadien?
Écoute, qu'est-ce qu'on a dit de bon? Faut savoir que...
T'as le droit de dire pas grand-chose.
Il y a une fatigue qui s'installe un peu chez tout le monde, et ça inclut, je pense que les journalistes, on arrive à la fin de la saison, les joueurs aussi, puis c'est correct. Bref, il n'y a pas de grand sujet à débattre ce matin, évidemment. Bon, tu l'as dit, il a été question un peu des Sénateurs qui offrent toujours une grosse opposition canadienne. Je pense qu'ils ont gagné les trois matchs cette saison entre les deux équipes. Donc, ce sera pas un duel facile. Il y a aussi... faut noter, puis... Je pense qu'il faut le voir positivement, le fait que c'est un entraînement très animé ce matin. Les joueurs sont rentrés très tard dans la nuit. Hier soir, le vol a été retardé parce qu'il faisait pas beau à Long Island. Et malgré tout, c'était la bonne humeur régnait ce matin. Puis Raphaël Harvey-Pinard nous disait que même si évidemment tout le monde est conscient de la situation de l'équipe au classement, ben le moral reste bon. Martin Saint-Louis est encore un bon motivateur pour eux. Puis T'sais, dans certains contextes, on pourrait voir une équipe peut-être qui ça les dérange pas de perdre. Je le vois pas comme ça. Je pense que les joueurs continuent d'être fiers des performances, puis veulent offrir des performances relevées. Mais je pense que c'est bien aussi que ce soit pas la grande dépression, surtout que c'est une équipe jeune, puis il faut quand même, il y a une vie après cette saison-là. Autrement, Caden Goulet n'a pas patiné aujourd'hui avec le groupe principal. Fait qu'à moins d'une grande surprise, il serait pas en uniforme demain contre les Sénateurs. C'est Caden Primo qui sera devant le filet. Je pense que je vous ai littéralement dit tout ce qu'il y avait à dire sur l'entraînement du Canadien d'aujourd'hui.
À la défense de Simon Olivier, j'ai écouté le point de presse de Martin Saint-Louis. Il y avait de très bonnes questions sur Mike Matheson. Alors, c'est pas vrai que le répertoire de choses
pertinentes
à dire.
Qu'est-ce qu'on a dit sur Matheson?
Ça a brûlé toutes mes questions que j'ai posées.
Ben oui, exact.
Dans le plus grand secret d'un scrum avec 16 micros puis des gens qui l'écoutent en direct à la maison. C'est en fait, je pensais pas me dévoiler comme ça, mais dans la presse plus de demain, il y a une pièce percutante sur Mike Matheson. Donc, je fais des blagues. C'est que Matheson a atteint le plateau des 60 points cette saison. Et on le sait, c'est pas quelque chose qui arrive souvent pour un défenseur du Canadien. Donc, même dans l'histoire du club, on parle de les Larry Robinson, Serge Savard, etc. Donc, c'est une liste prestigieuse. Mais j'essayais de mettre cette performance-là en perspective quand on voit que défensivement, quand on regarde les moins 24 à sa fiche, on est plus dans des... Ça nous rappelle plus la saison de Sheldon Surrey qui avait eu plus de 60 points et qui était moins 24, moins 25, quelque chose comme ça. J'ai pas évoqué Surrey dans la conversation, mais tout ça pour dire que Saint-Louis a vanté Matheson, évidemment, a dit que il devait continuer à être très très conscient de sur la glace, de justement de minimiser les erreurs, je résume. Et même Matheson nous disait ça, que lui aussi, que il essayait de pas... Évidemment, les statistiques, de pas s'en faire ni positivement, c'est-à-dire qu'il veut pas s'enfiler la tête avec les 60 points, ni négativement, il veut pas se taper la tête avec les moins 24, que c'est lui le plus dur critique de lui-même. Et voilà, j'ai été pris de court, je pensais pas vous parler de ça, mais
on lit ton reportage demain dans la presse plus, Simon.
Et voilà, c'est fait. Je serais pas surpris de gagner des prix avec ça.
Si t'avais voulu taper encore plus sur le clou, t'aurais pu lui rappeler que Larry Robinson, lui, il avait eu ses 85 points en finissant à plus 120.
Wow, quand même!
Essaie de battre ça!
Quand même, c'est assez spécial. Plus 120.
Mais les gars, c'est quand même impressionnant quand même parce que tu n'as pas une grosse équipe avec le Canadien. Faire une saison de 60 points comme il l'a fait avec très peu d'appui offensif, à part le premier trio, en soi, c'est très bon. Si tu avais deux autres trios, puis beaucoup plus de profondeur, ça serait peut-être plus aussi. Donc, il a cette chance-là. Oui, il y a du temps de glace parce qu'il y avait une moins bonne équipe, mais aussi, il a eu l'opportunité de bien faire malgré une moins bonne équipe. Donc, moi, je lui lève mon chapeau, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Là, je le vois encore dans mon top 15 offensif des défenseurs de la Ligue.
Clairement, il a joué une grosse saison, Mike Matheson. Hey, je veux juste prendre quelques instants pour revenir sur le match entre le Canadien et les Islanders. Défaite du Canadien 3-2 en prolongation face aux Islanders de New York. Et après le match, Martin Saint-Louis, dans un point de presse, nous donne, moi, je trouve qu'il y a toujours un petit quelque chose d'intéressant à aller chercher. Et quand il dit, on n'avait pas notre balle rapide. Et là, je me dis, ah oui, c'est quoi la balle rapide du Canadien de Montréal? Qu'est-ce qu'on n'avait pas dans ce match-là? Je fais un tour de table, je veux savoir, quelle est la balle rapide du Canadien, Guillaume?
La balle rapide comme telle, je sais pas, mais hier, c'était clairement une incapacité à s'organiser, à organiser des bonnes transitions en zone neutre, tout ça. C'était vraiment là que ça ne marchait pas, puis ça a donné comme résultat qu'ils ont fini le match avec 15 tirs au but.
Ouais.
Alors, ça passait beaucoup par là, parce qu'il y avait d'autres aspects du jeu où ça allait, en désavantage numérique, entre autres, ils ont vraiment été très bons, là, je dirais. En 8 minutes, les Islanders.
Mais l'avantage numérique des Islanders est vraiment linéaire. Là. C'est des passes.
Oui,
de
oui,
A,
puis,
B,
puis il manquait Noah Dobson en plus.
Il était blessé.
Donc, c'est
match.
Sûr que sans le défenseur numéro 1, ça aidait. Mais quand même, je veux dire, dans cette phase-là du jeu, ils ont été bons. Et puis, ben, le Canadien n'a pas eu d'avantage numérique non plus. Donc, c'est peut-être plus difficile de prendre du rythme. En même temps, si tu n'as pas d'avantage numérique, c'est parce que tu ne provoques pas de pénalité. Donc, c'était également peut-être un symptôme du mal qui affligeait le Canadien hier.
Simon Olivier, la balle rapide du Canadien, ça pourrait être quoi selon toi?
Ben en fait, Guillaume l'a évoqué, c'est générer de l'attaque tout simplement, parce que défensivement, évidemment, j'ai pas trouvé les Islanders non plus déchaînés pour une équipe qui lutte encore pour sa place en série. Là, je pense qu'avec cette victoire-là, ça devient plus sûr sans être assuré. Mais tu sais, je veux dire, défensivement, c'était correct, c'était pas si mal, mais offensivement, c'était le néant. T'sais, c'est pas juste 14 tirs cadrés, c'est 32 tentatives de tir. Et tu sais, juste dire, dans un match normal, 50, 55, 60, c'est pas rare, c'est pas exceptionnel. Là. Fait qu'on a vraiment rien généré hier. Peut-être 4 ou 5 bonnes chances de marquer dans le match. Et je comprends que les Islanders ont un style de jeu qui peut être étanche, mais c'est quand même une équipe qui a pas été à la hauteur des standards défensifs qu'ils ont montré dans les dernières années cette saison. Donc, non, c'est ça. La balle rapide, c'est vraiment d'avoir plus qu'un trio qui menace. Parce qu'en fait, hier... Pardon, mais hier, le premier trio a été, j'ai trouvé, un peu ordinaire, malgré quelques flashs en première. Sinon, les troisième, quatrième trio, il y avait rien là pantoute. Fait que non, c'est ça. La balle rapide, ce serait être capable de générer un peu ce qui n'est pas arrivé.
Antoine, je me corrige, oui, c'était 14 tirs et non pas 15.
Ben voilà, écoute, ouais. C'est clair. Antoine, de ton côté, j'ai l'impression que le Canadien était un peu étouffé dans ce match-là.
Ben, c'est sûr. Puis pour moi, la balle rapide du Canadien, ça se situe, tu sais, garder les choses simples. Puis ça, c'est en sortie de zone, en entrée de zone, aux lignes bleues, bien évidemment. Puis de garder les choses simples quand on veut créer de l'offensive. Puis quand on se complique la vie, ben c'est là que les revirements y arrivent. C'est là que on fait des erreurs de positionnement. On laisse passer des gars en zone défensive aussi. Donc pour moi, c'est un petit peu ça. Quand ils sont à leur meilleur, ils sortent bien de leur zone parce qu'ils gardent les choses simples. Ils supportent. Ils sont prêts l'un de l'autre et on dirait que tout se fait naturellement. Puis dès qu'il y a un petit peu de sable dans l'engrenage, ben, c'est là que tout ne fonctionne pas. Puis c'est probablement à ça que Martin Saint-Louis faisait référence.
OK, je reste avec toi, Antoine. Dans le match d'hier, on a vu un combat entre Brendan Gallagher et Jean-Gabriel Pageot après que Gallagher eut 5 matchs de suspension pour un coup de coude à Pelec. Est-ce que selon toi, ça avait d'affaires à se régler par un combat dans ce match-là?
J'haïs pas ça un combat entre deux fois plume, puis j'haïs pas ça un combat qui implique Brendan Gallagher, on le voit tellement pas souvent, puis le faire. Puis on dirait que ça arrive un petit peu plus souvent dernièrement. Je pense que il est plus à l'aise là-dedans. Est-ce qu'il y avait une matière à ça? Écoute, c'est des fois les émotions qui prennent des joueurs qui prennent les choses en main. Puis c'est un petit peu deux gars qui ont grandi dans la vieille époque aussi, donc. Je vois pas ça nécessairement d'un mauvais œil.
Mais il avait donné quand même 5 matchs de suspension. Tu sais, ils l'ont puni. Je comprends. Moi, le code, là, il y a des fois que je le comprends pas. Ils l'ont puni, Gallagher, pour 5 matchs parce qu'il a donné un coup de coude dans sus à un joueur des Islanders. Pourquoi t'as besoin de jeter mitaine et surtout pourquoi c'est Pageot? Allez, un de la gang, répondez quelqu'un. Vous me laissez tout seul.
C'est encore Antoine. Il y avait quand même eu une mise en échec sur Pajot, hein. C'est dans les secondes avant. Mais c'était pas, je pense, Pajot n'est pas venu le chercher à mise au jeu ou au centre de la glace. Il avait commencé à se coltailler avant aussi.
C'était dans le feu de l'action. Puis c'est, okay. Donc, c'est pour ça que c'était peut-être un peu des deux, là. Il y avait sûrement des restants du dernier match, mais effectivement, il y avait aussi la mise en échec juste avant qui était près de la bande. C'est Pajot qui avait frappé Gallagher près de la bande. Alors, il y avait un peu un côté feu de l'action. T'sais, personnellement, je suis pas un grand fan de bagarre, mais c'est ça. Quand c'est dans le feu de l'action, quand ça n'a pas l'air d'une bagarre planifiée à la mise au jeu, à la slap shot, ça me dérange un petit peu moins. Je me dis, regarde, ça fait partie de la catégorie des trucs qui arrivent de temps en temps. L'idée, l'espoir, c'est que ça arrive le moins souvent. Là. Mais bon, ça arrive et c'est tout. Et au moins, tout le monde semble s'en être tiré correct.
OK, parfait. Donc, je serais seul à dire que c'était pas nécessaire, mais c'est correct. Si vous êtes des apôtres de la violence, moi,
non, mais je vous respecte. Ça, mais c'est que... Quand il se fait plaquer d'une manière un petit peu aussi, tu sais, je veux pas dire dangereuse, mais moi, j'haïs pas ça que quand tu te fais plaquer de cette manière-là, tu te relèves puis t'attrapes le gars qui t'a frappé ou qui est le plus proche de toi. J'haïs pas ça. Personnellement, ça, je trouve que ça fait preuve de caractère. Ça démontre que plein de bonnes choses. Bien évidemment, c'est pas idéal. Puis comme tu disais, Gallagher, il a été suspendu. Mais là, c'était pas le même genre de geste pareil. C'est une mise en échec. Puis Gallagher tombe bizarrement dans la bande. Puis c'est pour ça qu'il est moins content. Il est un petit peu moins content. Donc.
Penses-tu que le fait que ça soit passé devant le banc des joueurs, ça augmente aussi le niveau d'émotion?
C'est à 100% parce que tu entends tous les gars dire ouf! Puis là, c'est là que tu es piqué à l'orgueil un petit peu. Là.
Clairement. Non, moi, je suis d'accord. Mais sauf que, moi, je vais ajouter, puis Simon-Olivier, je veux t'entendre réagir, je vais ajouter quelque chose. C'est que les Islanders, si les Islanders ont été capables d'éteindre le Canadien, je pense que les Islanders, et t'en as parlé tantôt, s'éteignent eux-mêmes. Tu sais, c'est un club qui a une place présentement en série. Ils ont quoi, 89 points, je pense, les Islanders, troisième de la division métropolitaine. Mais sincèrement, il n'y a pas d'émotion dans ce club-là. Est-ce que tu penses que c'est un club qui est bâti pour aller en série et aller chercher l'émotion nécessaire? Tu trouves-tu que c'est un club de série, Simon-Olivier?
Non, absolument pas. Sur le facteur émotion, disons que le très émotif Patrick Roy est mieux de ramer parce que c'est vraiment pas un club qui m'inspire confiance pour les séries. En plus... Là, je sais pas c'est quoi les mises à jour sur Noah Dobson, mais c'est vraiment le ciel qui leur tombe sous la tête sur Dobson et est absent pour quelques temps. En fin de match, on a aussi perdu Matt Martin qui a reçu une, je pense que c'est lancé frappé de Slavkovski sur la séquence qui a mené au but de Cole Caulfield. C'est quand même deux gars qui joueraient un rôle prédominant pour les séries. C'est ça, Martin dans un rôle de soutien, mais quand les séries commencent puis que ça se met à bardasser, ben c'est un gars qui est présent. Non, je pense que ce serait vraisemblablement contre les Hurricanes de Caroline. Et à moins qu'il y ait Sorokin goal sur la tête, et je vois pas vraiment comment les Islanders pourraient venir à bout des Hurricanes, même pas étirer la série en ce qui me concerne. Tu sais, je regardais la formation hier, Mike Riley, c'est vraiment un gars, tu sais, c'est un plan B, là. C'est pas un gars qui devrait être en Ligue nationale à temps plein. J'aime encore, tu sais, Pelec, Pollock, il y a des bons éléments en défense, mais vraiment, si Dobson n'est pas là, ça va devenir très, très, très difficile.
Est-ce que les Islanders, Guillaume, c'est un club de série?
Ben, ils ont quand même des joueurs dont c'est l'identité, ou du moins dont ça a été l'identité. C'est juste que ce noyau-là commence à vieillir. Mais tu sais, des gars, tu sais, regardez aller Pierre Engvall, c'est sûr, il est toujours bon contre le Canadien. Là, Engvall, là, hier, c'est son sixième but en 19 matchs. C'est un joueur de soutien dont on parle pas. Puis, à part pour mentionner qu'il a obtenu un contrat à très, très long terme qu'on s'explique mal, mais ça reste que c'est un gars de 6 pieds 5 qui a pas peur d'aller dans le trafic et qui peut se démarquer en série. Ils ont certains joueurs comme ça. Ils ont Alexander Romanov qu'on a connu à Montréal qui a quand même une belle courbe de progression. T'sais, ils n'ont pas une vilaine défense. Donc, je suis quand même pas prêt à les exclure si vite que ça. C'est une équipe qui va rentrer avec du momentum en plus en série avec les 6 victoires de suite. Donc, je veux dire, moi, personnellement, c'est quand même pas un club que je m'attends pas à ce qu'il se fasse balayer en 4 matchs là, au premier tour. Donc, j'ai hâte de voir. Je dis pas non plus qu'il s'en va en finale. Là. Je les choisirais certainement pas pour ça. Mais je pense quand même que c'est un club qui peut être difficile à éliminer au premier tour.
Parce que, Antoine, moi, je me suis imaginé que Lou Lamoriello, après un meeting de coach, quand tout le monde quittait pour s'en aller à la maison, est rentré dans le bureau de Patrick Roy, a pris son cahier de jeu et a posé quelques notes. Un moment donné, quand j'ai vu du 1-1-3, j'ai dit, mon Dieu, Lou a mis des notes dans le livre de jeu de Patrick Roy. C'est éteignoir un petit brin, là.
Ben, écoute, c'est Est-ce que Lou a fait ça? Je ne le sais pas, mais c'est sûr qu'ils ont une identité. Puis moi, je le dis souvent, puis c'est difficile de faire changer une identité complète, même d'une personne. Tu changes le coach, ça va être difficile pour le coach de faire un changement à 180 rapidement. Bien que, tu sais, puis ça, c'est s'il a le goût, mais de montrer de nouvelles choses en pleine saison à tes joueurs, tu t'entraînes déjà pas beaucoup. C'est difficile d'implanter des nouveaux systèmes. Oui, tu peux essayer de faire des choses différemment, mais on dirait que les joueurs qui sont un petit peu plus vieux, ils retournent toujours dans leurs habitudes. Puis c'est pour ça que c'est difficile aussi de probablement coacher cette équipe-là, parce que justement, ils en ont développé des habitudes. Puis depuis plusieurs années, c'est ces habitudes-là qui sont un petit peu plus... je dirais, c'est pas l'équipe la plus excitante à voir jouer. Puis ça, elle va rester comme ça pendant... peut-être encore quelques mois jusqu'à temps que Patrick puisse mettre son emprise totale sur cette équipe-là avec un camp d'entraînement, avec des entraînements, avec peut-être une nouvelle façon et une nouvelle philosophie de jeu. Donc oui, de jouer d'une certaine manière, de comme tu disais en 1-1-3, c'est commun. Est-ce qu'il jouait des... Je me rappelle plus. C'est pas personnellement s'il jouait de cette manière-là avant, mais on essaie des choses, mais c'est difficile d'enlever leur identité complètement. Ils ont une certaine façon de faire, et c'est à Patrick de les modifier juste adéquatement pour rentrer en série puis avoir du succès. Mais pour moi, ils ont une équipe qui est taillée un petit peu pour les séries, mais ça va être difficile, surtout si tu affrontes des équipes qui sont déjà reposées mentalement de la manière dont ils sont rentrés en série. Oui, tu as le vent dans les voiles, mais tu arrives aussi un petit peu plus fatigué, puis ça a son importance aussi.
Parfait, on va faire une courte pause là-dessus. Pour retour, on va se parler de la Ligue nationale de hockey qui a préparé deux calendriers. Un calendrier avec les Coyotes en Arizona et un autre calendrier avec les Coyotes à Salt Lake City. Oui, oui, pas Québec. Salt Lake City, vous avez bien compris. Propriétaire des Jazz de Utah qui serait derrière tout ça. On en parle au retour, restez là.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
On est de retour au balado Sortie de zone saison 5, épisode 53, avec Guillaume Lefrançois, Simon-Olivier Larange et Antoine Roussel. Les gars, la Ligue nationale de hockey préparerait deux calendriers. Un avec les Coyotes en Arizona et un deuxième calendrier avec les Coyotes, mais à Salt Lake City. Là, l'histoire là-dedans, c'est qu'il y a un transfert potentiel. On sait, les Coyotes de l'Arizona sont en train d'essayer encore une fois de trouver un nouveau domicile, un nouveau terrain pour faire ce fameux complexe. Je pense que la Ligue nationale de hockey a la mèche courte avec les Coyotes, on peut dire ça, après toutes ces années, a la mèche courte.
A fini par avoir la mèche courte.
Fini, t'as
raison.
Parce
qu'elle l'a eu longue avant.
Et surtout, c'est qu'on se rend compte que ça pourrait être un transfert très onéreux. T'sais, on parle peut-être d'1,5 milliard de dollars américains pour les Coyotes qui jouent dans le Mullet Arena. Je vais aller avec Antoine. Okay, Antoine qui a joué pour la franchise des Coyotes là-bas. Comment tu vois ça? Comment tu vois un départ potentiel pour Salt Lake City?
Ben, je pense aux joueurs, premièrement. Tu sais, quand tu es un joueur, puis on parle de déménagement, puis tu es en pleine saison, il y a des joueurs qui ont leur maison, ils ont leur famille, ils ont les enfants qui vont à l'école. Tu pars avec beaucoup d'incertitudes. Et si tu n'as pas de réponse rapidement, ben c'est là que ça peut être compliqué nécessairement. Tu arrives au mois de juin, si tu n'as pas de réponse, tu arrives au mois de juillet, puis admettons que ça se fasse plus tard, ben à ce moment-là, ça risque d'être très compliqué parce que tu as beaucoup de choses. Puis moi, je me suis déjà fait échanger au mois de juillet, fin juillet. Et là, il faut que tu t'organises en l'espace de 3 semaines pour que toutes tes choses arrivent là-bas, les écoles des enfants, les ci, les ça. Tu sais, puis je le dis souvent, ça, on fait pas pitié les joueurs de hockey, mais ça amène ton lot de stress parce que tu es jugé sur tes performances, sur comment tu performes sur la glace. Et pour monsieur, madame, tout le monde, ben ça aura un effet aussi, là, tu deviendrais stressé. C'est juste bouger 3-4 boîtes, on sait pas quoi faire, comment le faire, par où faut passer. Ben là, c'est ça sur stéroïdes. Et tu n'as pas beaucoup de temps. Et il faut que tu performes. Donc, pour les joueurs, pour moi, c'est ma première pensée. Ça risque d'être compliqué. Pour la franchise en tant que telle, on entend souvent parler des informateurs qui disent ben, que si à part, elle va revenir à un moment donné. Puis moi, je crois vraiment en ce marché-là. Je crois en fait au projet que le propriétaire actuel voudrait faire. Si ça se fait, ça serait un emplacement privilégié, deux choix, ça serait phénoménal. Tu sais, avec juste les vues qu'on a vues en 3D de ce à quoi ça pourrait ressembler. Les montagnes sont en arrière, c'est de toute beauté, c'est magnifique, ça serait un endroit phénoménal. Maintenant, il faut que ça se règle, puis il faut que ça se fasse. Puis ça, peut-être qu'il va leur manquer de tarmac, justement, pour décoller, parce que on s'écœure avec la Ligue, on commence à être tanné de voir cette situation-là s'éterniser. Puis on a peur aussi au fait que ça fonctionne pas. Puis une saison de plus au Molette Arena, c'est beaucoup d'argent. C'est de l'argent que les joueurs aussi. Puis Marty Walsh a été très vocal à ce propos. Marty Walsh, c'est le représentant des joueurs, l'ancien Don Fair. Ben, le nouveau Don Fair, pardon. Et il est tanné aussi parce que ça a un impact sur les autres joueurs de la Ligue. Donc, c'est pas un sujet facile, mais moi, j'entrevois s'il y a déménagement. Je ne suis jamais allé à Salt Lake City. D'ailleurs, je prévois y aller cet été, justement, pour aller en repérage, voir comment c'est, puis me faire une idée à propos de ce secteur-là. Mais je suis convaincu que ça sera un succès. Puis j'en ai parlé souvent, juste d'un point de vue hockey. Quand on regarde la banque de choix au repêchage que les Coyotes ont, ça pourrait avoir autant de succès que le commencement de Las Vegas des Golden Knights quand ils sont arrivés à Vegas. Pour moi, je vois vraiment le même genre de choses parce que on a des jeunes joueurs qui sont exceptionnels, qui vont être très bons. On a des choix repêchage à la tonne. On serait capable de se remanier une équipe qui serait complètement folle très rapidement. Il faut juste avoir un budget. Puis si t'as un nouveau propriétaire qui met 1,5 milliard dans une organisation, tu vas avoir un budget pour avoir une équipe bonne rapidement. Donc, c'est pour ça que ça serait un coup de circuit, selon moi.
Simon-Olivier,
j'aurais une question, en fait, pour toi, Antoine. Est-ce que vous en parliez, les joueurs, de la situation? Parce que tu as joué en 21-22 en Arizona. Je pense que c'est la dernière saison à Glendale. C'est quand, justement, l'équipe, il y avait les reportages qui sortaient sur le fait qu'ils ne payaient pas leurs fournisseurs et tout. Fait que je sais pas. Je pense qu'à ce moment-là, si ma mémoire est bonne, il n'était pas vraiment question de vont-tu déménager, pas déménager, tout ça. Mais il y a toujours eu de l'incertitude autour de cette équipe-là depuis qu'ils sont arrivés dans le désert. Est-ce que vous en parliez? Parce qu'encore aujourd'hui, finalement, des joueurs ont parlé aux médias, puis je pense, c'est Clayton Keller qui a dit « Ah, tout ce temps-là, on n'en parle pas beaucoup, on n'est pas vraiment là-dedans. » Comment ça se passait, toi, de ton côté?
Ben, quand tu es dans ta saison, tu ne veux pas nécessairement te laisser distraire par tout ce qui se passe autour. On t'en entend parler, bien entendu, mais je pense que tu prends toujours ça avec un grain de sel jusqu'à temps que la nouvelle elle tombe puis que ça soit vrai et véridique, que t'es pas nécessairement de seconde pensée puis tu t'attardes à penser ça. Je pense que tu vas pas perdre ton temps avec ça quand tu joues. Puis on en parlait pas nécessairement à mon époque, puis la prof Clayton Keller vient de le dire aussi maintenant non plus. C'est pas des sujets qui reviennent, ça revient un petit peu. T'as des meetings avec l'association des joueurs, ils en parlent, ils ramènent le sujet sur la table. Mais après ça, dès que c'est fini, ces meetings-là, ben tu penses au hockey, tu as une saison à gérer, tu veux bien performer parce que si l'équipe s'en va, ben ça a un effet sur ta carrière. Et si t'as pas une bonne saison, ben on va peut-être te laisser de côté. Puis je le dis souvent, quand tu marches dans le désert, tu joues au hockey dans le désert, il y a des chances que tu meurs là. Fait que et j'en suis la preuve vivante. Je le dis souvent, je suis mort là. Puis c'est là que ça s'est fini. Mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui écoutent les matchs de l'Arizona.
OK, mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que la Ligue nationale de hockey, dans la situation actuelle, après la période de pandémie, ne peut plus se permettre d'avoir une franchise qui n'amène pas le même type de revenus que les autres. Quand l'association des joueurs embarque là-dedans, c'est qu'il nous manque des revenus. Avec le Molette Arena, avec toutes les commanditaires, il manque de revenus. La Ligue peut plus avoir la même patience avec les conditions quand tu as passé 2-3 saisons à pas avoir le même genre de revenu. Tu as besoin d'argent maintenant. C'est exact. Ça qui presse présentement.
Ben, c'est ça. Et si la transaction qui fait l'objet de rumeurs sur les réseaux sociaux se concrétise, ben effectivement, la Ligue va avoir de l'argent. C'est-à-dire que là, ce qui est sorti des informateurs, c'est principalement Elliot Friedman et Greg Wyshynski d'ESPN. Ça serait dans le fond que Alex Maruelo vendrait l'équipe pour 1 milliard et la Ligue arriverait agirait comme intermédiaire et ça serait revendu à Salt Lake City pour 1,2-1,3 milliard. Alors, c'est un 2-300 millions qui irait à la Ligue nationale. Donc, tu sais, c'est une belle façon de récupérer les pertes des dernières saisons, là, disons, on va se le dire. Moi, ce qui m'intrigue là-dedans, c'est la fameuse idée selon laquelle cette transaction-là viendrait avec une espèce de garantie à Alex Maruelo qui pourrait avoir une équipe à Phoenix parce que je me dis que ce propriétaire-là, ce groupe de propriétaires-là doit commencer à être brûlé et à tous les niveaux. C'est-à-dire, premièrement, on l'a vu auprès des différentes villes dans la région. Ils se sont chicanés avec la ville de Glendale. Là, leur nouveau projet, c'est Scottsdale, au bord de la rue, qui voulait absolument rien savoir. Ça me laisse croire qu'ils ont agi probablement en cowboy sans trop consulter la ville voisine. Avec la ville de Phoenix, on ne sait pas trop ce qu'il y en est. Avec Tempe, ça semblait aller, mais là, c'est les citoyens qui n'en voulaient pas. Alors, au niveau, si on veut, politique, je pense pas que ce groupe-là a beaucoup d'alliés dans la région. Et ensuite de ça, au niveau des joueurs, j'ai hâte de voir ce qui va se dire de la part des joueurs. Là, ils ont parlé aujourd'hui pour la première fois, mais bon, donc tant que c'est pas finalisé, mais je me demande ce que les joueurs ont pensé de tout ça, parce que le dossier a escaladé tellement rapidement que je me demande les joueurs, eux, ce qu'ils savaient et ce qu'ils savaient pas dans cette histoire-là. Est-ce que les joueurs croyaient, eux aussi, que ça allait se rendre jusqu'à l'encan du 27 juin et que là, rendu là, on verra? Ou est-ce que les joueurs ont été informés que pendant tout ce temps-là, le propriétaire est en train de négocier avec la Ligue et avec Salt Lake pour la prochaine transaction. Si tout ça a été fait à l'insu des joueurs, je pense pas que ce propriétaire-là va avoir très bonne presse si jamais il veut revenir dans 3, 4, 5 ans repartir une équipe.
Oui, mais sauf que si dans les bonnes grâces de Gary Bettman, t'es dans les bonnes grâces de Gary Bettman.
Je sais pas s'il l'est. Je veux dire, dans tout ça, ce que je sais, c'est que le marché de Phoenix est dans les bonnes grâces de Gary Bettman. J'ai absolument aucun doute que la Ligue nationale retournera un jour à Phoenix si jamais c'est bel et bien la fin des Coyotes. J'ai absolument aucun doute. C'est un trop gros marché pour que la Ligue le laisse aller. Alors oui, la Ligue va y retourner, mais je ne sais pas si ça va être nécessairement avec le groupe actuellement en place. J'ai comme l'impression que ça nécessiterait peut-être un nouveau départ avec de nouvelles personnes et une nouvelle vision.
Là, je vais parler de Québec, mais je ne veux pas faire le lien entre les deux parce qu'à un moment donné, moi, je suis tanné de faire les comparatifs à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans la Ligue nationale. Québec, là-dedans, va-t-il arriver? Québec va-t-il arriver? Écoute, c'est de la grosse business, là. Puis je pense que le ministre Girard, qu'on appelle le ministre des Nordiques du côté de la CAQ, je pense que ça va prendre un groupe d'investisseurs qui sont prêts à signer le chèque. Le chèque, là, ça peut être 1,2, 1,3 milliards américains. C'est de l'argent en temps. Mais là, à travers tout ça, Éric Girard a été rencontré Gary Bettman. On savait pas trop pourquoi. On parlait d'une rencontre privée. Au retour de ça, Éric Girard dit avoir communiqué avec Gary Bettman pour dire que ce serait peut-être le fun que le Canadien ait joué des matchs en saison régulière à Québec. Juste vous faire quelques données, puis Simon-Olivier, je vais entendre ton point de vue là-dessus. Tu sais, Québec, là, le centre Vidéotron à Québec, c'est 85 loges. Du côté du centre Bell, c'est 135 loges. Si tu enlèves un match en saison régulière, c'est des matchs que tu donnes pas à tes détenteurs de billets de saison, donc tu dois les rembourser. La vente de bouffe, ton organisation, j'utilise le terme en anglais, ton setup de vente de produits, ben tu l'as pas, là. Il est à Québec, c'est différent. Fait que, Simon-Olivier, as-tu un avantage pour le Canadien d'aller jouer à Québec? Sincèrement, un match de saison régulière, le milieu Gérard, beau vouloir, mais tu sais, c'est-tu avantageux pour eux autres?
Ben, à part pour faire une opération séduction pour, tu sais, c'est pas un nouveau marché à conquérir parce que je pense qu'il doit avoir une bonne base de partisans à Québec. Mais je veux dire, tu sais, c'est toujours l'organisation peut-être voudrait bien paraître, voudrait, tu sais, dire, regardez, on sort de Montréal, on se décloisonne, on est ouvert à d'autres publics. En plus, c'est un aréna de qualité Ligue nationale. Fait que, tu sais, ils pourraient pas commencer à faire ça à Rouyn-Noranda, on s'entend, là. Fait que, c'est l'intérêt que je verrais du Canadien parce que financièrement, comme tu dis, il faudrait que quelqu'un ramasse la facture parce que le Canadien va pas abandonner un match sur 41 avec tous les revenus qui viennent avec. Honnêtement, mais tu sais, tu disais que tu ne voulais pas faire le lien, mais il y en a un quand même. Tu sais, ça montre que Québec veut encore avoir son équipe et veut montrer que c'est un marché, mais le dossier de la manière que le dossier de Phoenix se déroule nous rappelle une énième fois pourquoi il n'y en aura pas à Québec. Juste qu'on se comprenne bien, là. Puis je sais que la question était sur Québec, mais je vais revenir sur l'Arizona. Donc, le scénario qui est sur la table présentement, ou qui a été évoqué, Guillaume en a parlé, c'est que la Ligue achète à Maruelo l'équipe pour 1 milliard et la revend 1,2, 1,3 au nouveau propriétaire qui s'appelle Ryan Smith, qui était le monsieur de Salt Lake City. Maruelo a acheté les Coyotes pour 300 millions de dollars en 2019. OK? On dirait le flip d'un duplex dans un quartier central du plateau Mont-Royal, de l'île de Montréal. Ça n'a aucun sens acheter une équipe 300 millions et la revendre, la revendre avec 700 millions de profit 5 ans plus tard, alors que dans la propriété, il n'y a pas d'immobilisation parce que le Molette Arena, c'est pas à eux. Donc, c'est vraiment, c'est la marque de commerce qui vaut pas grand chose. C'est vraiment l'équipe. On fait un chèque de 1 milliard à un propriétaire pour le changer de marché. Alors, Québec arrive puis dit, bon, on veut mettre de l'argent, on veut un amphithéâtre, on veut tout ça, et on s'intéresse même pas à Québec, alors qu'on paye quelqu'un pour sortir les coyotes de là. La Ligue, ultimement, va rentrer dans son argent, puis les propriétaires vont en profiter, mais c'est vraiment, ça démontre à quel point ces deux univers complètement différents puis irréconciliables. Fait que, tu sais, peut-être que le Canadien pourrait disputer un ou des matchs de saison, probablement un match de saison à Québec, puis ce serait comme vu comme un événement, hein, comme une vitrine pour, tu sais, montrer voici le Canadien en dehors de Montréal. Mais pour moi, c'est une énième confirmation, si c'est encore nécessaire, que Québec sera jamais, jamais dans le coup pour une équipe.
Je me demande aussi, tu sais, premièrement, je serais très, très surpris que le Canadien laisse tout bonnement un match à domicile et le donne, si on veut, à Québec. Je serais excessivement surpris. Après ça, tu dis, est-ce que le Canadien pourrait y aller jouer comme équipe visiteuse? Mais même ça, je veux dire, les autres équipes ont pas plus intérêt à le faire de toute façon. Je sais qu'il y a une autre, justement, jusqu'à tout récemment, on aurait pu dire, bon, ben, pourquoi que le Canadien jouerait pas son match contre les Coyotes à Québec? Probablement que ça serait plus payant pour les Coyotes. Mais là, bon, s'ils déménagent, ben, la question se posera plus. Sinon, tu regardes les autres équipes qui en arrachent en termes d'assistance en ce moment. Les Jets de Winnipeg, ben, la Winnipeg voudra jamais laisser filer un match contre le Canadien. Ça se fera pas. Ensuite de ça, les Sharks de San Jose, OK, peut-être. En même temps, le Canadien s'en va en Californie de toute façon. Après ça, Buffalo. Bref, c'est pas quelque chose que je vois que je vois arriver. Je vois pas de quelle façon que ça pourrait être, qu'il pourrait y avoir un aménagement. Et je suis tout à fait d'accord avec Simon Olivier que le Canadien pourrait y aller pour se positionner comme étant l'équipe du Québec et non pas l'équipe de Montréal.
On l'a déjà fait plusieurs reprises.
On l'a déjà fait, puis c'est quelque chose que tu peux faire en match préparatoire. Puis justement, je pense que si le Canadien tenait vraiment à s'identifier comme tel, ben je veux dire, c'est ça, on le sait, il y a plusieurs années, ils allaient jouer un match préparatoire par année à Québec, puis là, ben, ça fait quand même plusieurs années qu'ils ont arrêté de le faire. Donc.
Antoine, on est en train vraiment de se rendre compte que Québec n'aura jamais de franchise, finalement?
Je suis complètement d'accord. Ben, en fait, je l'espère que non, mais c'est comme ça que je vois les choses aussi. La seule façon qu'il y ait une équipe de la Ligue nationale qui vienne jouer à Québec, ben on l'a vu, il faut qu'elle se fasse payer. Ou sinon, il faudrait qu'un petit peu comme Guillaume le disait, c'est une équipe qui fait moins d'argent que ce qu'il pourrait faire à Québec. Oui, c'est ça. Fait que Ottawa, ça serait potentiellement une bonne idée. Parce que tu as plus de loges, tu aurais un autre marché, tu irais chercher d'autres formes de revenus que peut-être à Canada, tu n'es pas en mesure. Donc, si moi, le Canadien a joué un match de saison régulière à Québec, je le vois, j'y crois pas.
OK, bon, ben écoutez, puis je le disais que je voulais pas faire d'association avec Québec dans le dossier de Salt Lake City, c'est que moi, je suis tanné pour les gens de Québec, je suis tanné pour tous ceux qui espèrent voir une formation de la Ligue nationale, puis tous ceux qui disent « Ah, c'est Jeff Molson qui retient ça ». Tu sais, logiquement, pensez business, là. Le gars, il veut-tu partager à la tarte la réponse? Je pense que vous avez tous la réponse.
C'est non.
Il y a personne qui veut ça. Sauf que il y a plein de gens pour le hockey voudraient avoir une franchise à Québec, mais il n'y a pas personne qui est là pour signer le chèque de 1,3 milliard. Ça prend quelqu'un qui a les poches profondes qui va signer 1,3 milliard. Là, on est rendu à 1,3. Si on traîne un an, si on traîne deux ans, si on traîne trois ans, ça va être quoi? 1,5, 1,6, 1,7, 1,8.
Quand la Ligue l'indicateur qui va être intéressant, c'est quand la Ligue va renouveler va signer ses prochains contrats de télévision. Ça va donner un bon indicateur à savoir si la valeur qu'on estime actuellement des franchises, si ça a de l'allure. Mais c'est vraiment tout va jouer, là, j'ai l'impression. Au Canada, ça arrive en 2026. Donc, ça s'en vient vite.
Bon, mais écoute, on va faire une courte pause là-dessus, puis au retour, on va se parler du sondage de l'Association des joueurs qui voit Sidney Crosby comme le joueur le plus complet. Ben oui, le vieux Sid the Kid qui est encore le joueur le plus complet dans la Ligue nationale d'hockey.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct. L'assurance simplifiée.
On est de retour au balado, sortie de zone saison 5, épisode 53 avec Guillaume Lefrançois, Simon-Olivier Larange, Antoine Roussel. Donc, l'association des joueurs a fait son fameux sondage qu'on fait à chaque année. Et Sidney Crosby est sorti comme étant le joueur le plus complet, lui qui a obtenu, je le précise, sa 1000e passe, devient 14e joueur de l'histoire à atteindre le plateau des 1000 passes. 1591 points pour Sidney Crosby, 10e joueur de l'histoire à avoir ce grand total dans cette victoire de 6-5 face aux Red Wings de Détroit. Tour de table, Crosby, est-ce que c'est le gars le plus complet de la Ligue nationale? Guillaume, je commence avec toi.
Je pense que oui. J'ai tendance à croire les joueurs là-dessus. Puis c'est pas complet. Comment je pourrais dire ça? À son côté complet, il n'y a pas nécessairement le côté, on le voit pas au fait saillant à tout bout de champ comme on voit d'autres joueurs. Là, c'est pas, il est pas complet en ce sens-là. Il n'y a pas cette partie-là, mais il y a vraiment tout le reste et beaucoup d'intangibles avec ça, une espèce de détermination, de façon de traîner ses coéquipiers avec lui à la guerre. Donc, tu sais, si les joueurs le disent, j'ai tendance à faire confiance aux joueurs là-dessus. Donc, oui, ce que j'ai trouvé intéressant par ailleurs dans ce sondage-là, ce qu'il faut savoir premièrement, c'est qu'on ne sait pas à quel moment de l'année le sondage est fait. On devine que c'est fait graduellement en fil de saison, c'est-à-dire, bon, est-ce que les joueurs reçoivent le formulaire, doivent le remplir éventuellement. Ce boulot, on l'ignore, mais je trouve ça quand même intéressant de voir qu'Austin Matthews n'apparaît nulle part, sauf dans la catégorie des joueurs qui ont plus de style. Mais pour le reste, il apparaît nulle part. Et quand je dis apparaît nulle part, c'est que dans toutes les catégories, il y a 5 joueurs. On nomme les 5 premiers joueurs, dans le fond, qui ont reçu le plus de votes. Et donc, c'est ça, Austin Matthews, la seule catégorie où il apparaît, c'est ça, c'est le joueur qui a le plus de... Ils ont appelé ça le meilleur style. Okay. Alors, on parle vraiment de style vestimentaire. Là, on parle de mode.
Ça, c'est lui qui a 68 buts. Là.
Exact, en plein ça. Donc ça, j'ai quand même trouvé ça intéressant, révélateur. Puis la raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'on arrive à la période de vote pour les trophées de fin de saison. Et ben il y a beaucoup de gens qui disent si Austin Matthews marque 70 buts, le trophée Hart pourrait très bien lui revenir et devrait lui revenir. Et aucun doute qu'il est très, très, très important pour les Maple Leafs. Là. Puis aucun doute que s'il marque 70 buts, ce sera historique comme saison. Mais disons que de voir qu'il apparaît pas dans le top 5 selon ses pairs, ça me fait peut-être douter un petit peu. Puis à l'inverse, Sidney Crosby, je pense pas qu'en début de saison, il y a beaucoup de monde qui l'aurait vu pour le trophée Hart, mais si les Pingouins se qualifient.
Tu vois, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis, parce que dans les joueurs les plus complets, les plus utiles, Connor McDavid est là. McDavid est blessé présentement et je pense que c'était clair. Si on était là en série de fin de saison, il serait sur la patinoire. Sauf qu'il a dit, l'équipe en premier, je vais me reposer, je vais m'assurer d'être prêt pour les séries de fin de saison. Peut-être que pour la première fois, McDavid... Écoute, je sais qu'il est capitaine, je ne vais pas me faire lancer de tomates, mais met l'équipe en premier en disant « je me repose, on sera plus fort en série de fin de saison ». Austin Matthews, lui, poursuit la chasse du 70 buts. Ça continue en quantité industrielle. Bon, c'est sûr qu'il va marquer 70. On se croise les doigts pour lui, on aimerait ça. Mais clairement, ce n'est pas le même profil. Simon-Olivier, joueur plus complet, Crosby. McKinnon, tu ne trouves pas que McKinnon est plus complet que Crosby?
C'est parce que la définition de joueur complet, elle peut être multiple. Tu sais, je regarde dans le sondage de la Ligue, donc le top 5, Crosby à 38%, Barkov à 14,6, Kopitar à 8,2, McDavid à 7,8 et McKinnon à 6,6. Quand je regarde Barkov et Kopitar, ben, ce que je vois, c'est des joueurs complets vraiment qui jouent les fameux 200 pieds. C'est deux anciens gagnants du trophée Selke. C'est deux gars qui peut-être font moins de points qu'un McDavid et McKinnon, mais que l'aspect défensif est tellement important dans leur jeu. Moi, c'est les joueurs que je choisirais pour écouler les dernières minutes, les dernières secondes d'un septième match de la Coupe Stanley pour garder une avance sans l'ombre d'un doute. Et Crosby, sans avoir été identifié attaquant défensif comme ça au cours des années. D'ailleurs, il joue pas en désavantage numérique. S'il va chercher le côté complet, le côté... Tu sais, quand Martin Saint-Louis parle d'un joueur qui est un joueur de hockey, c'est comme dur de l'expliquer de manière très raisonnée, mais on comprend ce qu'il veut dire dans les fameux intangibles. Crosby, je le vois dans cette catégorie-là de joueur complet, à laquelle, effectivement, pourrait appartenir Nathan McKinnon, mais je vois pas. Je pense que présentement, Nikanen est un joueur plus performant. Crosby, évidemment, il est plus jeune, plus explosif. C'est pas le même style de joueur exactement. Mais je le verrais pas plus complet que Crosby. Moi, dans ma définition personnelle, on serait plus dans, justement, dans les Barkov. Moi, j'adore Sébastien Aho, qui est vraiment dans cette lignée-là. Aho, qui est d'ailleurs, va avoir une saison de 90 points cette saison, que je vois plus justement dans l'héritage de Crosby, qui sont des joueurs qui, donc, offensivement, peuvent être dominants, mais qui transcendent beaucoup la game ou le jeu du hockey et qui vraiment inspirent leurs coéquipiers et les amènent, comme disait Guillaume, à la guerre.
Bon, mais je veux voir ça, Antoine. Tu l'as affronté, Crosby. Est-ce que tu le considères comme étant le joueur le plus complet?
Sidney Crosby est pas tout à fait au sommet de ma liste à moi personnel. Parce que c'est dur quand même, les gars, là, d'enlever Nathan MacKinnon, il a 130 points cette année. Là, on me dira pas que le trophée Hart devant un gars qui a amené son équipe en séries éliminatoires. C'est ça qu'ils ont fait, Nathan MacKinnon. C'est ça qu'il a fait. Il l'a amené en séries éliminatoires. Pour moi, que Sidney Crosby revienne dans cette discussion-là, je suis pas nécessairement d'accord. Je trouve que oui, c'est parfait. Il va être dans les meilleurs gars qui ont tiré son équipe vers le haut, mais en même temps, tu peux pas lui donner parce que au final, il finit sa saison à 90 points. Il y a des gars qui ont 40 points, voire 50 points de plus que lui. C'est énorme la différence. On parle pas d'une dizaine de points, là. Puis si on parle de maintenant tout de suite, mais pas de l'ensemble de l'œuvre, ben c'est pour moi je me suis amusé un petit peu pendant que vous jasez. J'ai fait mon top 7. Là. Moi, ça serait MacKinnon, Crosby, Miller, Tkachuk, Marner, Barkov, Hyman, ce serait ça actuellement. Si on ne parle pas de l'ensemble de leur carrière, maintenant tout de suite, ce serait ça mes gars les plus complets.
C'est intéressant que tu mettes JT Miller, Antoine. C'est pas un joueur on parle autant. Donc, j'aimerais juste t'entendre à ton sujet parce que c'en est un qu'on connaît peut-être moins ici, on dirait, à part de voir son total de points exploser depuis 2 ans. Là, mais...
Ben absolument. Puis pourquoi il fait partie de ces joueurs-là? C'est parce que sur un avantage numérique, il a compris le changement des choses sur ses mises en jeu. Il est tout le temps en train de gagner ses mises en jeu. Après ça, il est capable d'amener son équipe à un autre niveau par sa détermination, par sa grit. Oui, on s'en souvient des fois de JT Miller par l'attitude qu'il y a des fois, il y a eu, mais il fait partie des joueurs complets. Puis pour moi, ça prend ça. Puis Sidney Crosby, il a cette attitude-là. Je pense qu'elle est plus positive que JT nécessairement, mais ça fait partie de l'ADN de ces joueurs complets qui amènent tout le monde avec eux. Puis Sid, il l'a, mais pour moi, Nathan MacKinnon est devant lui en ce moment. Puis c'est pour ça que je pense que lui aussi devrait gagner le trophée Hart, ou du moins ça va se jouer au coude à coude avec Kucherov, mais... Kucherov fait pas partie des joueurs complets pour moi.
Antoine, je vais rester avec toi. Je vais te parler maintenant des joueurs les plus détestés. Brad Marchand, sans surprise.
Pas pourquoi tu dis ça.
Non, mais sans surprise, il fait partie de ça. Est-ce que c'est un chapeau qu'on te donnait quand tu étais dans la Ligue nationale de hockey d'être un joueur détesté?
Ben oui, je pense que oui. Est-ce que je faisais partie de cette petite liste-là des joueurs détestés quand j'étais à mon meilleur, quand j'étais le plus détestable? C'est officiel que probablement, puis c'est ça qui a fait en sorte que je m'établisse dans la Ligue pendant plusieurs saisons, puis en toute humilité pendant un certain temps. Quand j'étais à mon meilleur, c'est là où j'étais le plus détestable. Puis écoute, la meilleure façon de te l'exprimer, c'est la journée où on est allé chercher Patrick Sharp avec les Stars. Il m'a vu arriver pendant qu'on faisait les examens médicaux. Puis il m'a dit, toi, viens ici. Il m'a collé. Il m'a dit, je suis bien content d'être dans ton équipe. Pour te dire à tel point que... Puis c'est arrivé la même chose, justement. JT Miller m'a fait la même affaire quand je suis arrivé à Vancouver. C'est juste que par la suite, ben j'ai décliné. J'étais un petit peu moins détestable, un petit peu plus aimé. Puis mais au final, oui, je portais ce chapeau-là. Puis j'en étais bien content. C'est ça qui a fait en sorte que j'ai joué dans la Ligue nationale, qui m'a différencié de choix de première ronde qui n'était pas capable de s'établir. Au final, j'étais différent, puis c'est ça que cette différence-là m'a permis de m'établir. Donc oui, j'étais bien content de mettre ce chapeau-là. Si bien que des fois, je m'entraînais à des endroits, puis je voulais pas rencontrer d'autres joueurs nécessairement de la Ligue nationale parce que je me serais fait d'autres amis, puis j'en voulais pas d'autres amis à ce moment-là. Je voulais rester détestable.
Ah oui. J'ai trouvé le nom d'Antoine dans le sondage de la Ligue nationale de 2018-2019.
Oh!
dans le sondage dans l'association des joueurs, pardon.
C'était quoi le libellé de la question dans ce temps-là? Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que cette année, le libellé de la question, c'était quel joueur aimez-vous le moins affronter, mais que vous voudriez
dans votre équipe. Ah, oui.
Donc, c'était ça le libellé. Mais puis en 2018-19, c'était quoi le libellé?
Ben là, je sais pas. En fait, c'est pas dans cette catégorie-là. C'est dans la catégorie...
Détestable, mais beau bonhomme.
Non, ça, évidemment, on sait que t'aurais gagné, mais c'était le pire trash talker. Et je pense que c'est la question devait être mal comprise parce que Brad Marchand a gagné meilleur et pire trash talker cette année-là. Et donc, pour pire trash talker, tu étais le choix de 5,47% des répondants au deuxième rang derrière Marchand, devant Piqué Subban, Nick Cousins et Brandon Lemieux. Et Cousins était également parmi les meilleurs et les pires trash talker. Fait que je pense que une question qui mérite d'être précisée. Et je sais pas si tu veux commenter.
Ben, Antoine P, que Nick Cousins, t'es fort, là. Vraiment, t'es vraiment fort, là.
Ouais, ben, en fait, je suis un petit peu insulté que mon nom soit dans la même phrase que lui parce que, comme d'habitude, moi, je répondais de mes actes que lui ne le fait pas nécessairement. Donc, ça m'a toujours dérangé. Et s'il était sur le podcast, ça me ferait plaisir de lui dire également.
Bon, ben voilà, c'est clair. Hey, juste une note comme ça. Je me rends compte, Alexander Ovechkin est arrivé avec une 18e saison de 30 filets. Et Ovechkin, sur la glace, je me demande comment ce gars-là est. Est-ce que c'est quelqu'un qui est-ce qu'il est arrogant? Est-ce qu'il barbe? Comment est-ce qu'il est, Antoine Ovechkin, sur la patinoire?
Non, il parle pas nécessairement. Il fait ses petites affaires. Mais c'est écrit que si tu ne veux pas le réveiller, c'est lui, Brad Marchand, les Claude Giroux aussi. C'est des gars que Mathieu Tkachuk, tu peux le mettre dans cette, les deux d'ailleurs, tu peux les mettre dans cette gang-là. Tu veux pas, c'est des gars que tu veux pas réveiller. Quand tu les affrontes, tu leur parles pas, tu les regardes pas. Tu sais, on parlait justement de trash talker, puis de, tu sais, ces gars-là qui sont dérangeants. Ben, ces gars-là, ils excellent quand tu les piques, quand tu les, tu les bouscules. C'était le mot d'ordre. À chaque fois qu'on affrontait un de ces joueurs-là, le mot d'ordre, c'est « parlez pas à ce gars-là, regardez-le pas, il va essayer de rentrer dans votre bulle. » Puis Claude Giroux, il est comme ça. Il va te parler, il va essayer d'engager une conversation. Puis moi, il essaie toujours de me parler. Puis je lui donnais zéro attention parce que je savais que c'est un joueur exceptionnel, Claude Giroux. Il est capable d'élever son niveau de jeu d'un cran. Fait qu'au final, ces gars-là, tu leur parles pas. Puis pour revenir à Ovi, ben, Ovi, tu ne veux pas nécessairement... c'est dur d'essayer de frapper Ovi parce que c'est une roche, premièrement. D'essayer de jouer physique contre ce gars-là, tu risques de te faire mal, bien souvent. C'est 200... Bon, écoute, ça doit évoluer son poids dans l'année, hein, probablement en augmentant. Fait que ça doit être un gars entre 2,40. Fait que frapper un gars à 2,40 là, qui est solide comme lui, c'est pas nécessairement évident. Puis c'est ce qu'il apporte dans le jeu. C'est ça, tu le laisses dormir. Tu le laisses dormir, c'est le mot d'ordre.
Bon, mais il semblerait que dans le sondage de l'Association des joueurs, le nom de Guillaume, François, Simon Olivier et Jérémy Rainville sont là pour bon dans la chambre. Apparemment qu'on serait très, très bon dans la chambre, nous autres.
Les bonnes questions. Vous feriez partie de cette courte liste, ça, c'est certain.
Ouais, bonne question. Bon sans la rondelle. On serait très, très bon sans la rondelle. Hey, les gars, ça complète le balado sorti zone. La prochaine fois qu'on va se parler, c'est mercredi, le 17 avril prochain. Mercredi.
Ah!
Je l'ai dit. Mercredi. Le 17 avril prochain, ça sera le bilan de fin de saison du Canadien de Montréal. On aura eu les deux dernières rencontres. Donc, samedi face aux Sénateurs d'Ottawa, lundi face aux Red Wings à Détroit, mardi, retour pour le dernier match de la saison. C'est à Montréal contre les Red Wings encore une fois. Mercredi, bilan de fin de saison, les joueurs, la direction. Et on aura un balado en fin de journée pour vous faire un résumé complet et notre analyse de tout ce qui s'est passé du côté de ce bilan de fin de saison. Gros merci à Guillaume Lefrançois. Merci beaucoup, Guillaume.
Merci, Gérard.
Simon-Olivier Lorange, toujours un plaisir et on te souhaite du bon temps à Ottawa.
Ah, t'es fin. Merci à toi.
Ça fait extrêmement plaisir. Antoine Roussel, c'était bien le fun. Merci beaucoup, Antoine.
C'est un plaisir, la gang.
Et voilà qui complète le balado sortie zone. Et nous, on se parle mercredi prochain.
Yeah!
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.